vraiment séparer le sport et la politique. Quand on sait que la Coupe du Monde se tient notamment aux États-Unis, marquée par la dérive autoritaire de la présidence Trump, quand on sait que l'organisation de tels événements sert de levier de prestige et de puissance pour les États et leurs dirigeants, quand on connaît les enjeux financiers énormes, peut-on vraiment se dire que c'est juste une compétition sportive et faire abstraction du reste? C'est la question qu'on a creusée avec des élèves.
La politique dans tout. Tout n'est pas politique, mais il y a de la politique dans tout. Et donc, si vous pensez dans vos communes, il y a bien quelqu'un qui gère la piscine, qui gère les salles de sport. Est-ce qu'on construit une nouvelle piscine ou est-ce qu'on fait un nouveau golf? Les chèques sport, à qui on les donne? Déjà, dans nos vies quotidiennes, les infrastructures, les fameux stades de football. On n'a pas pu construire un stade, rappelez-vous, le stade national en Belgique. La politique, elle est vraiment absolument partout. Alors bon, ça ne doit pas nous empêcher de prendre notre pied en regardant un beau match de foot ou en voyant Wout van Aert avoir une magnifique victoire. Mais il faut toujours voir qu'il y a évidemment un aspect politique. Mais je terminerai en disant politique, c'est pas un mot sale. Hein. Politique, c'est un fait. C'est pas politique, c'est pas mafieux, c'est pas scandaleux. C'est simplement qu'il y a des pouvoirs politiques qui décident. On peut réguler le football, on peut organiser le football. La Champions League, on pourrait l'organiser d'une autre façon. Ça, ce sont des décisions politiques. On a rapidement compris qu'en utilisant le sport, ils gagnaient une bonne image de marque. La Chine a investi dans les Jeux Olympiques pour dire qu'elle était revenue dans un monde normal. Regardez le Qatar. Ils jouent comme ça à se donner une image. C'est aussi parce que, vous voyez, on dit on est belge, mais ça veut dire être belge. Quand est-ce qu'on se sent belge aujourd'hui? Quand les Diables Rouges ou les Black Cats se jouent, c'est-à-dire que c'est les équipes nationales, c'est la représentation de la nation à la télévision de façon très simple. Et donc oui, c'est des enjeux géopolitiques majeurs. Les nations utilisent de plus en plus le sport. Alors il faut faire attention parce que si vous prenez le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar, bon, ils ont cru que ça allait être fastoche, on va donner une bonne image de nous, on va inviter toutes les stars, et tout, et puis on n'a pas arrêté de leur parler droits de l'homme, droits des travailleurs, qui peut aller, est-ce que des couples non mariés peuvent louer des chambres d'hôtel ou pas, et donc ça a l'air un peu revenu dans le visage aussi. Donc voilà, c'est pas si facile, on en parlera peut-être plus tard, mais la Coupe du Monde chez Monsieur Trump, ça va pas être si facile pour Monsieur Trump non plus. Donc voilà, l'utilisation du sport, ça peut, il y a un effet boomerang, ça peut vous revenir à la gueule aussi. Il y a beaucoup de ça, et à vrai dire, les gens, la presse, tout le monde transforme un match de foot en autre chose. Regardez Belgique-France en foot, on le transforme vraiment dans tout à fait autre chose qu'en simple match entre Belgique-France. Pensez à Maroc-Sénégal, imaginez-vous un match entre l'Iran et les États-Unis. Évidemment qu'il se joue autre chose. Donc, ce n'est pas simplement 11 personnes contre 11 personnes qui jouent. Tout le monde voit autre chose que simplement un match de foot. Il y a le match de foot et puis il y a tout ce qu'il y a à côté. Et c'est effectivement exactement la représentation des rapports. Et pour le petit battre le gros, eh bien, ça peut évidemment être très très important. Chose, parce qu'il y a tout ce ressenti des Belges qui ont connu beaucoup de blagues, beaucoup de mépris. Alors vous êtes trop jeune pour connaître les blagues de Coluche ou voilà, il y a un moment où, voilà, dès qu'on allait en France, on soutenait notre gueule, notre accent. Et donc, quelque part, il se joue, voilà, pour que ça prenne une telle importance, il faut que dans la société, les gens ont vécu émotionnellement, se sont sentis blessés. Donc ça montre un peu notre complexe d'infériorité aussi. Donc ça montre le complexe de supériorité des Français, qui ne peuvent pas imaginer d'être battus par des petits Belges, mais ça montre aussi notre complexe d'infériorité. Mais si vous prenez les Suisses, c'est exactement la même chose. Pour les Suisses, battre les Français, c'est le rêve absolu. Donc voilà, ça dit quand même quelque chose sur l'image des nations, la façon dont soi-même on se vit. Et en Belgique, on n'est quand même pas très patriote, on n'est quand même pas très nationaliste, on ne connaît pas vraiment très bien l'hymne national, en comparaison des Français ou d'autres pays. Donc ça nous apprend quand même quelque chose sur notre rapport à la nation. Moi, j'ai fait une recherche qui montrait vraiment que, en Flandre, l'équipe nationale, elle est beaucoup moins soutenue que du côté francophone. Donc ça nous apprend quand même quelque chose. Bon, sur un jeu qui est du foot, mais ça dit quand même beaucoup de choses.
Et donc on a vu ça beaucoup aux Jeux Olympiques, 76, il n'y avait pas de pays africains. 80, il n'y avait pas de pays de l'Ouest. 84, il n'y avait pas des pays de l'Est. Chacun s'est renvoyé un peu la balle. Et en fait, toutes les éditions des Jeux Olympiques, jusqu'à Barcelone en 1992, ont été boycottées. En tout cas, toutes celles entre 76 et 92, elles ont toutes été boycottées. On n'a pas la même chose dans le foot. C'est même assez étonnant. Dans le foot, il y a eu beaucoup de menaces de boycott, encore récemment avec le Qatar. Mais il n'y a pas eu de boycott effectif. La fois où c'est passé le plus proche, c'était en 1978. Et pour cause, c'était une Coupe du Monde qui avait lieu en Argentine. Aucun de vous n'était né, même pas conçu. Mais c'était en 78. Et ça se passe dans l'une des pires dictatures. Enfin, toutes les dictatures sont terribles, mais celle-là était particulièrement sanguinaire. En Argentine, avec au pouvoir le colonel ou général Videla, enfin, qui était un dictateur et qui torturait, assassinait à tour de bras. Et donc la question s'est posée de savoir si on irait ou si on n'irait pas. La Belgique n'avait pas un pouvoir décisionnel très important parce qu'elle n'était pas qualifiée. Mais c'était le cas, par exemple, en France, et toute la gauche s'était positionnée pour un boycott. C'était le mouvement COBA, donc le mouvement de boycott de cette Coupe du Monde en Argentine. Et là, on a vu vraiment une scission entre le monde intellectuel, qui supportait le boycott et surtout qui voulait dénoncer les crimes de la junte argentine, et le monde sportif, qui lui était très content d'y aller. Et je me rappelle d'une expression de Michel Platini qui dit: nous les joueurs, on nous demande de pas aller à cette Coupe du Monde pour laquelle on s'est autant battu, mais j'irai à la nage s'il le faut, il avait déclaré.
Et donc, oui, évidemment, ça c'est une vraie question dans ces moments de boycott. À la fois, il peut se jouer quelque chose de politiquement fort, d'un État qui veut montrer qu'il conteste la situation dans tel autre État, ou qui veut pas jouer contre tel autre État parce qu'il y a un conflit. Et des sportifs pour qui c'est toute leur vie, tout leur entraînement, c'est des années de préparation pour ce genre de grand rendez-vous international. Cette tension-là, elle existe un peu toujours, non, quand il y a ces questions de boycott?
De façon générale, les sportifs ne sont pas très impliqués dans la vie sociale et politique. De temps à autre, il y a une déclaration qui sort un petit peu du ronron ambiant. Je me rappelle de Gullit, par exemple, Ruud Gullit, qui était joueur star de l'AC Milan et qui avait dit: c'est pas parce qu'on joue pour une équipe qui appartenait à l'époque à Berlusconi qu'on est supporter des idées du parti de Berlusconi. Mais bon, ces sorties-là sont quand même vraiment très très rares. Donc effectivement, il y a un monde sportif qui tourne un petit peu de façon autarcique. Et puis après, il y a toutes les analyses qu'on fait de l'extérieur où là, effectivement, on surinvestit les rencontres avec des enjeux géopolitique qui dépasse beaucoup le monde sportif.
Or, Gilles Coutguebeur.
Mais pour moi, il y a deux types de boycott. Il y a celui qui est décrété d'en haut par le pouvoir et qui utilise souvent le sport comme une arme diplomatique. Et donc ce boycott-là, à mon avis, n'est pas très efficient. Ça, c'est la première chose. Il est assez injuste et il génère beaucoup de frustration chez les joueurs, chez les supporters, on l'a vu. Après, il y a un autre boycott qui est celui de la personne qui, en son âme et conscience, dit « Non, je ne mange pas de ce pain-là. Non, il n'est pas question pour moi d'aller faire du sport dans un pays qui, par exemple, sous une junte militaire. » Et donc, ce boycott-là est tout à fait légitime. J'ai des exemples en tête. Johan Cruyff, ça vous dit peut-être quelque chose. Il n'a pas été en Argentine. Peut-être pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons personnelles. Mais en tout cas, lui a refusé d'y aller, alors que la Hollande était la meilleure équipe du monde et elle a fini de nouveau finaliste, battue de justesse par l'Argentine. Mais donc, on a des réactions de ce type-là. Moi, j'ai un ami, Bernard Faure, qui a été pendant des années le commentateur de l'athlétisme sur France 2. Au moment des Jeux Olympiques de Pékin, il a refusé d'y aller parce qu'il y avait trop de désaccords avec la politique chinoise. Mais c'était sa décision. Et en son âme et conscience, il a choisi de ne pas y aller. Cette formule-là m'a l'air parfaitement légitime et l'autre, beaucoup plus contestable.
Jean-Michel Dewey.
Je ne pense pas que ne pas aller à la Coupe du Monde ait beaucoup de sens, mais je pense qu'agir à la Coupe du Monde, ça, je pense qu'on peut le faire. Je pense que les supporters peuvent très bien sortir des banderoles. Je pense que j'étais pour le boycott au Qatar. On ne peut tout de même pas aller dans un pays qui viole toutes nos valeurs. Et au moment où on va regarder du foot, il y a des gens qui sont torturés, il y a des gens qui sont complètement exploités. On ne peut quand même pas être complice. Parce que, vous voyez, dans tout ça, on est un peu complice. Et donc, on ne peut pas à la fois dire, nous, on veut un monde qui, mais bon, moi, j'aime bien regarder le foot, donc j'arrête. Non. Et ce qui m'a beaucoup désespéré sur le Qatar, c'est de voir qu'il y avait si peu d'action. Et y compris pour les médias, d'ailleurs, on fait une émission en disant, oh là là, la situation au Qatar, c'est, on s'est donné bonne conscience, et puis après, tous les matchs, on vend tout de même aussi le spectacle tel qu'il est. Donc je pense qu'il faut avoir un peu plus d'exigence. Pour moi, le choix, c'est pas boycotter la Coupe du Monde ou ne pas la boycotter, c'est y aller et essayer de mener des actions, ce qui n'est pas simple parce que la FIFA interdit toute action, ce qui est assez bizarre puisque la FIFA a des tas de mesures politiques, elle interdit à la Russie d'être présente dans des compétitions et elle dit pas de politique. Ben voilà, c'est de nouveau deux poids deux mesures. Dans un certain moment, on peut faire de la politique et puis quand ça les arrange pas, la politique est interdite. Donc voilà, moi je pense qu'il y a quand même, par rapport à tous ceux qui souffrent, par rapport à tous ceux qui sont exploités, on a quand même un devoir de quelque part faire quelque chose. Et moi, je serais si fier de mon pays si les Diables Rouges pouvaient faire une action. Je ne dis pas ne pas monter sur le terrain, je ne dis pas marquer 5 goals contre son camp pour protester, mais montrer le fait qu'il y a un grave problème avec Donald Trump qui déclare des guerres partout et que ça fait des milliers et des milliers de morts par la faute de ce type. Je serais beaucoup plus fier de mon pays si ça pouvait se faire. On va gagner la Coupe du Monde, on est tous d'accord là-dessus. Mais à côté de gagner la Coupe du Monde, eh ben, si on pouvait au moins déjà faire ça, on resterait dans l'histoire.
La Fédération internationale de football et ce discours paradoxal où à la fois il est demandé de tenir la politique à l'écart des terrains et pour la FIFA certaines prises de position contre le racisme ou pour la défense des droits des minorités sexuelles et de genre, c'est déjà trop de politique. Alors que dans le même temps, le président de la Fédération internationale de football remet à Donald Trump un prix de la FIFA pour la paix, entrant pleinement dans le jeu politique de Donald Trump. Un deux poids deux mesures qui s'explique surtout par l'irruption massive ces dernières années des enjeux financiers, comme nous l'explique
comprendre, c'est que cette idée de distinguer la politique et le sport, elle n'est pas non plus totalement absurde. Elle date de la rénovation du sport moderne, dit-on, donc à la fin du 19e siècle. Il y avait tellement de conflits sur la Terre à cette époque que si on avait eu des représentants des différentes nations qui se réunissent pour disputer des compétitions sportives, c'était la bagarre assurée. Donc Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux, a dit qu'il voulait que s'opposent des athlètes mâles individuels, mâles parce qu'il trouvait que le sport féminin n'était pas fait pour la compétition, et individuels parce qu'ils ne représentaient pas leur État. Donc c'était une condition sine qua non pour avoir une organisation sportive qui tienne la route. Et bon, 130 ans plus tard, elle a bien tenu la route quand même. Et donc, c'est la base du sport. La genèse du sport, c'est de le distinguer justement des enjeux politiques. On a vu que ça n'a pas résisté très longtemps et que sûrement à partir des années 30, le sport est devenu un enjeu politique majeur. Mais l'idée que des pays puissent se retrouver sur un terrain en appliquant les mêmes règles, à savoir que par exemple en football on ne prend pas la balle en main, c'est assez remarquable compte tenu du fait que ces pays sont si différents. Quand on a un match Iran-États-Unis, ils ont très peu de choses en commun, sinon peut-être la règle de la main dans le foot. Et dans un monde actuel où on est de plus en plus informé par les réseaux et donc de façon de plus en plus différent les uns des autres, parce que les algorithmes nous donnent à manger ce qu'on veut bien écouter, et donc dans ce monde-là qui se divise avec même des systèmes d'organisation. Donc l'Internet en Chine n'est pas le même que celui aux États-Unis et peut-être en Europe. Et donc on va être de plus en plus abreuvé d'informations qui nous sépareront. Si on peut s'entendre dans les compétitions sportives sur un certain nombre de lois qui concernent certes le jeu, c'est quand même, de ce point de vue-là, c'est quelque chose à sauvegarder. J'ai un attachement au sport justement parce que c'est un terrain de jeu qui permet de se rencontrer alors que par ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'autres espaces pour cela.
Vecteur de paix ou bien non, ça a un sens aussi dans cette direction-là?
Ah, je pense que ça a un vrai sens. C'est des moments de partage, c'est des moments d'émotion. Et on a tellement peu dans notre monde des moments où on est unis, où on a des émotions partagées. Oui, c'est évidemment que c'est quelque chose de très positif. Je pense qu'on devrait beaucoup, beaucoup plus utiliser le sport. Parce que, bon, voilà, si vous mettez des gamins et des gamines sur un terrain de foot, un terrain de basket, ils ne regardent jamais de quelle couleur ils sont, d'où ils viennent, de quel milieu ils sont. Donc, il y a là quelque chose de fantastique. Et moi qui voyage beaucoup, voilà, je trouve que c'est absolument extraordinaire de voir partout dans le monde des gens jouer au basket ou au foot y a quelque chose là quand même qui s'est passé à la fin du XXe siècle et dans notre siècle, qui est une culture commune. On n'écoute pas partout la même musique, on ne regarde pas les mêmes films, on ne mange pas partout la même chose. Mais jouer au foot et jouer au basket, ça par contre, on le fait partout avec les mêmes règles et tout le monde va regarder la Coupe du Monde et des gestes extraordinaires vont rester dans nos histoires personnelles alors qu'on n'a rien en commun à part ça. Et donc là, oui, le sport a ce côté magique qui fait évidemment sa force et sa puissance et sa beauté.